Bonjour à tous. Nous allons à présent écouter la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments encore une fois de plus. Nous voulons te glorifier pour cette parole que nous voulons écouter. Car c'est ta parole que nous voulons écouter. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. C'est cette lumière, Seigneur, que nous voulons méditer ensemble ce matin avec l'aide de ton esprit. Parle au-dedans de nous et parle, car ton peuple veut t'écouter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous savez, nous vivons dans un monde où les gens pointent constamment du doigt les autres. Ils cherchent à les accuser de leurs fautes, de leurs faiblesses, de leurs péchés. Et ils sont prêts à les condamner dès que l'occasion se présente. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Comme les jeunes le disent, ils balancent tout sur Facebook, tout sur WhatsApp. Ils pointent constamment les gens du doigt. Mais pour nous, enfants de Dieu, malgré nos faiblesses, nos fautes, nous avons un Seigneur qui se soucie de nous. Un Seigneur qui est prêt à nous offrir son amour, son pardon. Oui, un ami fidèle qui connaît nos défaillances, un ami fidèle qui est toujours prêt à nous entendre, un ami fidèle qui est toujours prêt à nous comprendre. Et son désir, cet ami fidèle, n'est pas de nous pointer du doigt, son désir n'est pas de nous condamner, mais de nous sauver de nos péchés. Le message de ce matin s'intitule « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Notre texte biblique est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 1 à 11. C'est un récit que nous connaissons très bien. Évangile de Jean, au chapitre 8, et le verset 1 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Chapitre 8, nous commençons par le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. » Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, acquisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. le verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Frères et sœurs, le récit de cette pauvre femme nous parle aujourd'hui. C'est une histoire d'espoir au milieu du désespoir. La loi de Moïse, la loi a été donnée par Moïse, dit la parole de Dieu, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, le verset 12. Et dans ce passage, frères et sœurs, l'accent est mis sur le pardon, sur la miséricorde et sur la grâce du Seigneur envers le pécheur. Lorsque cette femme a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé pour toujours. Son péché pardonné, sa culpabilité enlevée, sa peur transformée en paix. Nous allons donc méditer ce texte ensemble en trois points. Le premier point, la culpabilité de la femme adultère. Le deuxième point, le piège du pharisien. Et enfin, le troisième point, le pardon et la miséricorde de Jésus-Christ. Alors, le premier point, la culpabilité de la femme adultère. Le premier verset du chapitre 8 de Jean dit, « Le peuple était rassemblé autour de Jésus tôt le matin dans le parvis du temple pour écouter Jésus-Christ enseigner. » Ils étaient rassemblés pour cela, pour écouter Jésus-Christ enseigner. Malheureusement, Jésus-Christ fut soudainement interrompu par les scribes et les pharisiens, amenant une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est ce que dit la parole de Dieu, le verset 1. Alors, qui était cette femme? Qui était cette femme? La Bible ne nous le dit pas. Et nous n'allons pas non plus spéculer là-dessus. La Bible ne le dit pas. Nous ne savons pas non plus de quelle manière ces scribes, ces pharisiens ont réussi à surprendre cette femme en flagrant délit. Nous ne le savons pas. La Bible ne le dit pas. Ces chefs religieux, ces scribes et pharisiens qui étaient des chefs religieux, bien qu'ils étaient des chefs religieux, soi-disant spirituels, leurs intentions en ces jours-là n'étaient pas bonnes. Leurs intentions n'étaient pas bonnes en ces jours-là. Mais vous savez, notre Seigneur sait tout, connaît tout, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Le Seigneur a vu le péché de cette femme, mais le Seigneur a vu aussi l'hypocrisie de ses chefs religieux, parce que rien n'est caché devant sa face. La Bible dit au verset 4, « L'ayant placé au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Voilà leur accusation. La pauvre femme était mise au milieu de tout le monde, du peuple, devant Jésus-Christ. Certainement, elle était désespérée et impuissante. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle a ressenti en ce moment-là, cette pauvre femme? Embarrassée, honteuse,
trahi, seul, abandonné. Essayez un peu d'imaginer cette scène. Cette pauvre femme au milieu de tout ce monde-là. Et on lui a pointé du doigt. Elle pouvait se dire certainement en elle-même, dans son cœur, comme l'avait dit David dans Psaume 38, le verset 5, elle pouvait se dire certainement dans son cœur que « Mon péché et ma culpabilité s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elle est trop pesante pour moi. » Elle pouvait se dire ça parce que c'est en ce moment-là, tu dis non. Tout ce que tu as fait se remonte au cerveau là, tu dis, et tu n'arrives plus à supporter. La culpabilité de cette femme ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute parce que cela est mentionné deux fois dans ce passage, au verset 3 et au verset 4. Il est dit, une femme prise en flagrant délit d'adultère. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Les pharisiens qui l'ont accusé avaient raison. Ils avaient raison parce qu'elle méritait la mort. Pourquoi elle méritait la mort? Car la loi de Moïse, à cette époque, la loi de Moïse exigeait la mort de la femme et de l'homme qui était son partenaire dans le péché. Comme il est dit dans Lévitique, chapitre 20, le verset 10, Lévitique, chapitre 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Elle méritait la mort selon la loi de Moïse. L'homme et la femme étaient coupables. Non seulement la femme, l'homme et la femme étaient coupables. Il y a cependant un petit souci, un petit problème avec l'accusation des pharisiens. Où est son partenaire? Où est l'homme? Parce que par définition, l'adultère concerne deux hommes. Où est l'homme? Où est son partenaire? Mais peu importe, frères et sœurs, où il s'est trouvé, cet homme, cette femme était coupable et elle méritait la mort d'après la loi de Moïse. Jésus-Christ, notre Seigneur, ne rejette pas l'accusation des pharisiens. Même si les pharisiens utilisent sa culpabilité, la culpabilité de cette femme, pour lui tendre un piège, Christ ne rejette pas sa culpabilité. Frères et sœurs, personne n'échappe au péché. Personne. Chacun de nous est aussi coupable que cette femme. Chacun de nous est aussi coupable que cette femme. Jacques chapitre 2, le verset 10, l'épître de Jacques au verset 2, verset 10, nous lisons ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque. C'est pour cela que nous tous, nous sommes coupables de cette femme. Et frères et sœurs, un jour viendra où le véritable état de nos cœurs sera révélé. Un jour viendra où l'état de ton cœur, l'état de mon cœur sera révélé. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, si notre culpabilité serait tous les jours affichée sur nos fronts, je pense que nous les hommes, nous n'arrêterons pas de porter tous les jours les chapeaux, une casquette pour camoufler notre culpabilité. Et les femmes n'arrêteront pas de porter de couvrir leur tête pour cacher leur culpabilité. Nous sommes tous coupables que cette femme. Et le seul espoir pour tout pécheur, frères et sœurs, se trouve en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, comme fut le cas de cette femme adultère. Jésus-Christ peut nous libérer de la culpabilité du péché. Personne d'autre. Jésus-Christ. Ce n'est pas ce monde. Ce n'est pas un homme quelconque de ce monde, mais rien que Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, nous exhorte en ceci, dans Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. La parole de Dieu nous exhorte à ceci, frères et sœurs. Rejetons donc tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et la perfection. Rejetons tout cela, frères et sœurs, et courons, mais ayons toujours nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui suscite la foi et la perfection. Le deuxième petit point, frères et sœurs, c'est le piège du pharisien. Ces chefs religieux, soi-disant, n'étaient pas venus au temple pour suivre l'enseignement de Jésus-Christ, parce que, au premier verset du chapitre 8, il est dit que Jésus-Christ était là dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Ces chefs religieux n'étaient pas venus au temple pour suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Non. Leurs intentions étaient que Jésus-Christ se prononce sur le cas de cette femme adultère. Que Jésus-Christ puisse dire un mot, son avis, sa décision, son jugement sur cette femme adultère. À première vue, c'est une bonne chose. Cela pourrait sembler donner honneur à Jésus-Christ. Vous savez, quand on est là, on dit, « Ah, s'il vous plaît, frère, ou bien mon oncle, ma sœur, je viens peut-être te demander conseil. » C'est que quand même, on te considère. Et c'est ce que les pharisiens ont fait. C'est faux semblant. C'est faux semblant. Croyant faire voir qu'ils sont venus donner honneur à Jésus-Christ. Mais le vrai problème pour eux n'était pas de donner honneur à Jésus-Christ. Le vrai problème pour eux n'était pas non plus de faire appliquer la loi de Moïse. Ce n'était pas leur préoccupation. Leur désir était d'étendre un piège au Seigneur afin de l'accuser. C'était ça leur désir. Et dans leur arrogance, dans leur motif égoïste, ils amenèrent cette femme devant Jésus. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que leur péché d'incrédulité, leur péché de tromperie, leur péché d'autosatisfaction, s'il faut dire cela, leur péché d'orgueil sont aussi mauvais que l'adultère. Alors, nous pouvons nous poser cette question. Pourquoi ils ont accusé cette femme publiquement? Quel était l'intérêt? Ça servait à quoi de l'accuser publiquement, de l'exposer publiquement comme ça? Ils n'avaient pas besoin de le faire. Et il n'était pas nécessaire de l'amener à Jésus-Christ. Parce que ce chef religieux, il connaissait bien la loi de Moïse. Ils avaient qu'à l'appliquer. Point barre. Ils avaient qu'à l'appliquer. Ils n'avaient pas besoin de l'amener devant Jésus-Christ. Ils avaient qu'à appliquer cette loi de Moïse eux-mêmes. Mais eux, ils l'ont amené devant Jésus et devant tout le peuple. Tout cela n'était que de l'hypocrisie. Ils avaient l'intention, comme nous l'avons dit, de salir publiquement la réputation de cette femme dans le but de piéger Jésus-Christ. C'était ça. C'était ça. Ils étaient très durs envers cette femme. Ils ne se souciaient pas de cette femme en tant que personne. Ils l'ont seulement utilisée pour atteindre leur but. Pour eux, peu importe que cette femme meure ou qu'elle vive, ça leur disait absolument rien. Quelle importe si cette femme doit être mise à mort ou qu'elle continue à vivre, cela n'était pas leur intérêt. Parce que elle n'était qu'un pion. Un pion dans leur bataille contre Jésus-Christ. C'est un pion qu'ils utilisaient contre Jésus-Christ. C'est leur intérêt qui comptait. Et cet intérêt, c'était quoi? Trouver un motif pour accuser Jésus-Christ. La souffrance de cette femme, quand elle était placée devant tout le monde, ne les intéressait pas, ne les disait absolument rien. Vous savez, frères et sœurs, c'est la même méthode que le monde utilise aujourd'hui et continue à utiliser aujourd'hui pour défendre les intérêts personnels, pour défendre les positions sociales dans la société. Même s'il y a des morts ou des blessés, cela n'a pas d'importance. Le plus important dans le monde maintenant, l'essentiel, c'est d'atteindre un objectif, d'atteindre un but. C'est ça. Même si les gens meurent, même si les gens sont blessés, même si les gens souffrent, le monde d'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. L'essentiel, que j'arrive à ce que je me suis fixé. Mon objectif principal, que j'arrive à cet objectif. Point à la ligne. Que tu meurs de faim. Que tu souffres avec tes enfants. Ça leur dit absolument rien. Oui, c'est regrettable. C'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Et dans leur accusation, dans l'accusation des scribes et des pharisiens, il y avait quelque chose qui ne s'accordait pas avec l'enseignement, avec les exigences de la loi. Comme nous l'avons dit plus haut, si la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, pourquoi l'homme, son partenaire, n'a pas été amené devant Jésus? Pourquoi? Vous voyez que c'est un piège. Pourquoi? Elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Pourquoi son partenaire, son homme, n'a pas été traduit, n'a pas été présenté devant le peuple et devant Jésus-Christ? Oui, frères et sœurs, le piège est que les pharisiens voulaient savoir, c'était ça le piège, ils voulaient savoir ce que Jésus-Christ pensait concernant cette femme-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? C'est ce qui les intéressait. Afin qu'ils disent quelque chose, que le Seigneur se prononce et utiliser tout ce que le Seigneur allait dire, l'utiliser contre lui. Et le monde, c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui vient te voir, tu sais, baba, toi aussi, allez, tu racontes. Ah ben, au revoir. Il arrive là-bas, tu sais, tac,
Il a dit ça, il a fait ça.
Ce que tu as dit se retourne contre toi. Ils utilisent ça pour t'accuser, pour te faire du mal. C'est ce que les pharisiens voulaient faire. Ils voulaient savoir ce que Jésus-Christ va dire, le jugement de Jésus-Christ sur ce cas d'adultère. Oui. Alors, frères et sœurs, ils se disaient en eux-mêmes, ces chefs religieux, quelle que soit la réponse de Jésus-Christ, il réussirait à le piéger. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ était fidèle à la loi de Moïse, il applique la loi de Moïse, pardon, ils n'auront d'autre recours que de faire mourir cette femme. Mais le problème aussi, si Jésus-Christ ne condamne pas à mort cette femme, s'il ne condamne pas à mort, s'il ne se prononce pas pour la mort, pour la mise à mort de cette femme, les scribes et les pharisiens vont l'accuser de ne pas respecter la loi de Moïse. Ils vont se retourner contre Jésus-Christ et l'accuser qu'il ne respecte pas la loi de Moïse qui exigeait la peine de mort en cas d'adultère, comme nous l'avons lu dans Lévitique 20, 10. Ils allaient dire ça à tout le peuple. Voyez, voici le Messie que vous dites, le Messie. Il ne respecte pas la loi de Moïse. Mais le problème aussi, frères et sœurs, au chapitre 7, le chapitre précédent, ils étaient malins, ces pharisiens. Ils disent, bon, d'accord, ok. S'ils ne respectaient pas la loi de Moïse, ce n'est pas grave. Ils vont l'attaquer encore sous un autre angle. Parce que dans le chapitre précédent, au chapitre, toujours dans Jean chapitre 7, le verset 19, Christ les avait accusés. Donc si nous pouvons lire cela, Jean chapitre 7, le verset 19, Jésus-Christ les avait accusés de ne pas respecter la loi de Moïse. Chapitre 7, le verset 19, il est dit, Moïse, Jésus leur dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus-Christ les avait reprochés qu'ils n'observaient pas la loi. Ils avaient accusé de ne pas respecter la loi. Et maintenant, si Jésus-Christ ne fait pas mourir cette femme, ne dit pas qu'elle mérite la peine de mort, ces mêmes pharisiens vont se retourner contre Jésus-Christ. Ils vont prendre leur vengeance maintenant. Ils vont prendre leur vengeance en disant et en prouvant que Jésus n'observe pas la loi de Moïse. Vous voyez le jeu qui était là. Frères et sœurs, c'était un piège terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais heureusement, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et le problème aussi, si Jésus condamne cette femme à la peine de mort, cela aurait été aussi un motif valable pour eux de dénoncer aux autorités romaines, de les dénoncer aux autorités romaines afin que Jésus-Christ soit arrêté et le faire mourir. Voilà le piège qui était là. S'il dit oui, problème. S'il dit non, problème. C'était ça leur jeu. Oui. Cela aurait été un motif valable pour eux d'accuser Jésus-Christ auprès des autorités. Pourquoi? Parce que il a décidé, il a fait un jugement et il a dit qu'elle mérite la peine de mort. Mais Il y a une chose, frères et sœurs. Les Juifs, à l'époque, n'avaient pas le droit de donner la mort. Les Juifs n'avaient pas le droit de donner la mort à qui que ce soit. Seulement les autorités romaines qui avaient ce droit-là de vie et de mort, pas les Juifs. Rappelons-nous, si on peut faire, donc, aller un peu plus loin, rappelons-nous, frères et sœurs, quand les principaux sacrificateurs ont conduit Jésus-Christ devant Pilate. Dans Jean chapitre 18, je vais lire cela rapidement, dans Jean chapitre 18, verset 31, qu'est-ce que Pilate leur avait dit? Et qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont répondu à Pilate? Jean chapitre 18 et le verset 31. Sur quoi Pilate, où on peut lire à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe et au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'y souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme, donc contre Jésus-Christ ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'est t'es pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Le verset 31, « Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi, c'est-à-dire selon votre loi de Moïse. Jugez-le vous-même. » Les Juifs lui répondirent, « Qu'est-ce que les Juifs ont dit ?» Les Juifs lui répondirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Donc ces scribes et ces pharisiens n'avaient pas droit de mettre quelqu'un à mort. Mais il vient devant Dieu, devant Jésus-Christ, pour lui dire, « Quel est ton jugement? Que dis-tu ?» S'il dit qu'il doit mourir, ils vont l'accuser auprès des autorités, que « Mais non, mais nous n'avons pas droit de mettre quelqu'un à mort. » Mais lui, là, lui, il a décidé de mettre cette femme à mort. Et c'était un motif valable d'accuser Jésus-Christ et de le condamner. Et si Jésus-Christ ne se prononce pas pour la peine de mort concernant cette femme, il allait lui dire, tu n'observes pas la loi de Moïse, tu ne respectes pas la loi de Moïse. Frères et sœurs, c'était un piège terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la meilleure façon, frères, de voir comment traiter les péchés, c'est de voir comment Jésus s'est comporté avec cette femme. C'est ça la meilleure façon de traiter les péchés des autres. C'est de voir comment Jésus-Christ s'est comporté envers cette femme. Et non comment les pharisiens l'ont jugé et condamné. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous ne devons pas juger. C'est pas parce que nous ne devons pas juger que nous devons autoriser les péchés, que nous devons accepter les péchés. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché, frères et sœurs. Quand quelqu'un est dans le péché, nous devons l'aider et non le condamner. Nous devons toujours avoir à cœur l'intérêt spirituel de la personne. Mais les pharisiens n'ont pas agi de cette manière. Ils n'ont même pas pris en compte la souffrance de cette femme. Frères et sœurs, même dans nos amis, même au travail, même dans notre entourage, même si la personne a commis une erreur, une faute, frère, essayons de la comprendre. Essayons de comprendre sa souffrance. Mais ne restons pas là comme les pharisiens, rien qu'atteindre ton objectif. Parce que chez moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Attention. Des fois, la personne souffre. Des fois, la personne souffre comme cette femme, seule, abandonnée.
Mais Christ, c'est un ami fidèle qui entend et qui comprend et qui compatit.
Oui, l'Église du Seigneur, frères et sœurs, ne peut tolérer le péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. S'adressant aux églises de la Galatie, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 1, voici ce que l'apôtre Paul dit. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est comme ça que nous devons agir. Même chez nous à la maison. Envers nos épouses, envers nos maris, envers nos enfants, envers nos amis, envers nos collègues de travail. Frères et sœurs, ayons cet esprit de douceur. Ayons cet esprit de douceur et voyons toujours l'intérêt de la personne, l'intérêt spirituel de la personne. Ne pas l'enfoncer plus dans le trou, mais aidons cette personne. C'est ce qui manquait aux pharisiens. Le troisième petit point, frères et sœurs, c'est le pardon et la miséricorde de Jésus-Christ. Le pardon et la miséricorde de Jésus-Christ. Oui, ce chef religieux ne pouvait pas aider cette femme. Il ne pouvait que la condamner. Ce chef religieux ne pouvait pas non plus lui donner une nouvelle vie. Il ne pouvait pas la libérer de son péché. Ce chef religieux pouvait condamner, mais il ne pouvait pas sauver. La miséricorde de Dieu condamne le péché, mais pardonne le pécheur. Voilà la différence. La miséricorde de notre Seigneur juge le péché, condamne le péché, mais pardonne le pécheur. Et tout cela manquait chez les pharisiens. Manquait chez les pharisiens. Oui, les pharisiens pouvaient détruire la personne, mais ne pouvaient pas la restaurer, la réparer, devenir une nouvelle personne. Non, ils ne pouvaient pas. Seul Jésus-Christ pouvait faire cela. Seul Jésus-Christ. Oui, la justice des hommes condamne à la fois les crimes et les criminels. C'est ça la justice des hommes. Elle condamne les crimes et les criminels. Mais la miséricorde de Dieu, comme on l'a dit, juge le péché, condamne le péché, mais il pardonne le pécheur. Et en continuant à lire ces passages, frères et sœurs, il y a des moments quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, il y a des moments où nous souhaitons avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'éclaircissements. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il est écrit ceci? Pourquoi le Seigneur a dit cela? C'est vrai, ça nous arrive tous. Et nous revenons à ce qui a été dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit quand il s'est penché deux fois pour écrire avec les doigts sur la terre? Qu'est-ce qu'il a écrit? Je me suis posé cette question. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a écrit? J'aurais voulu avoir beaucoup plus d'informations. Mais la Bible ne dit rien. La Bible ne dit rien. On ne sait pas ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre. Alors, ne spéculons pas. Il y a certains qui disent ceci, d'autres qui disent cela. Mais moi, je me suis dit, la Bible n'a rien dit, alors je ne cherche pas non plus à savoir plus. Pourquoi? Parce que s'il était important pour nous de le savoir, ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre, Dieu aurait inspiré l'apôtre Jean pour l'écrire. Mais comme l'apôtre Jean, Dieu n'a pas inspiré l'apôtre Jean de l'écrire, alors moi je ne cherche pas d'aller plus loin.
cherche pas d'aller plus loin. Oui. Et nous lisons verset 7. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Voilà la réponse de Jésus-Christ à ces pharisiens. Eux, ils voulaient que Jésus-Christ se prononce pour ou contre la peine de mort, comme ça se passe au Parlement ici. Jésus-Christ a dit non, il n'y a pas question de pour ou contre. Il n'y a pas question de pour ou contre. Mais il y a question qu'une seule chose, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre cette femme. Et ce que Jésus a dit, si vous lisez bien la loi de Moïse, vous lisez bien l'Ancien Testament, ce que Jésus dit ici, cela nous rappelle la loi criminelle. Dans la loi de Moïse, bien sûr, la loi criminelle concernant la loi des témoins. La loi des témoins en cas de crime. Et qu'est-ce que cette loi des témoins disait? C'est très long, nous n'allons pas le lire, mais c'est dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Deutéronome 17, 1 à 7. La loi de Moïse exigeait deux témoins oculaires avant que quiconque puisse être mis à mort. Il exigeait également que le témoin oculaire soit le premier à mettre l'accusé à mort. Que le témoin oculaire soit le premier à jeter la pierre sur l'accusé. Et cette même loi précisait que les témoins ne doivent pas témoigner faussement ou par intention malveillante. Et là, c'est dit dans Deutéronome 19, versets 15 à 21. Donc, si vous lisez Deutéronome 17, 1 à 7, cette loi de témoins, et le Deutéronome 19, chapitre 15 à 21. Et vous verrez tout cela. Oui, cette loi précisait que le témoin oculaire soit le premier à jeter la pierre sur l'accusé. Et ne pas faire de faux témoignages. Et si vous faites le faux témoignage, la peine qui aurait été infligée à la victime vous sera infligée. C'est ce que cette loi disait. Et les pharisiens savaient tout cela. Parce qu'ils étaient instruits. Ils savaient par cœur la loi de Moïse que eux, ils vantaient, qu'il fallait appliquer sur cette femme. Les pharisiens savaient tout cela. Et les paroles de Jésus visent à leur rappeler la gravité de leur accusation. Jésus voulait leur dire tout simplement, avant de jeter la première pierre sur cette femme, regardez-vous bien dans le miroir. Regardez-vous bien dans le miroir. Assurez-vous que vous êtes qualifié pour mettre à mort cette femme. Et assurez-vous que vous-même, vous n'êtes pas coupable d'un péché quelconque. C'est-à-dire que vous êtes sans péché. C'est ce que le Seigneur voulait leur dire en disant que celui qui est sans péché puisse jeter la première pierre sur cette femme. Ces mêmes paroles de Jésus-Christ nous rappellent aussi autre chose, les paroles de Jésus-Christ toujours. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2, les paroles de Jésus-Christ qui dit ceci, Matthieu 7, 1 à 2, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Voilà, ça nous rappelle tout cela. Et cela, comme disait un frère, cela a fait chauffer leur cerveau. Leur cerveau commençait à bouillonner et ils ont commencé à partir discrètement, en commençant par le plus vieux. C'est nous les vieux qui partons toujours, les premiers, les jeunes partiront après. Ouais, parce que Tout cela, le Seigneur leur a rappelé cela.
Mais dans tout ça, frères et sœurs, Jésus est la seule personne sans péché qui aurait pu jeter la pierre sur cette femme. Et pourtant, Jésus a choisi de ne pas le faire. La seule personne qui pouvait jeter la pierre sur cette femme, c'est Jésus-Christ. Mais il a choisi de ne pas le faire. Et au verset 10, Jésus demande à cette femme. Jésus ne lui demande pas, pardon. Au verset 10, Jésus ne lui demande pas si elle est coupable. Mais seulement, il lui demande quoi? Il ne demande pas que, es-tu coupable? Jésus ne lui a pas posé cette question. Jésus-Christ lui a dit, si quelqu'un l'a condamné, personne t'a condamné? Et la réponse de cette femme, non Seigneur, personne, personne. Elle assume sa culpabilité, elle assume sa faute. Elle dit, personne ne m'a condamné. Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas non plus. Je ne condamne pas non plus, mais seulement va et ne pêche plus. Le pardon lui est accordé. Va et ne pêche plus. Voilà la bonté du Seigneur, comme nous l'avons dit ce matin. La miséricorde de Dieu, la grâce du Seigneur, le pardon du Seigneur. Va et ne pêche plus. Frères et sœurs, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Oui, il n'y a qu'une seule façon d'être en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule façon, frères et sœurs, d'être en Jésus-Christ. C'est de l'accepter comme étant votre Seigneur et Sauveur. Jésus n'a pas jugé cette femme, car la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi Jésus ne l'a pas jugé. Jésus pardonne son péché et lui montre la voie, le chemin à suivre par la repentance, tout comme il nous a offert et il nous offre encore à tous le même pardon et la même miséricorde aujourd'hui. Et Dieu merci, nous l'avons loué pour cela ce matin, pour sa bonté qui se renouvelle dans nos vies, jour après jour. Pour conclure, frères et sœurs, nous sommes tous comme cette femme adultère. Nous étions tous coupables devant Dieu. Tous coupables devant Dieu. Et au moment où cette femme était au milieu du peuple, traînée par les pharisiens, au moment où elle était dans cette situation impuissante, sans force, sur le point d'être condamnée, Jésus-Christ a intervenu et l'a sauvée. Jésus-Christ l'a intervenu et l'a sauvé. Elle n'a pas été condamnée par Christ, mais Christ a été condamné pour elle sur la croix. Frères et sœurs, Christ a été condamné pour elle sur la croix. La femme adultère n'a pas été condamnée par Jésus-Christ. C'est l'inverse, c'est Christ qui a été condamné pour elle. Oui, elle était sans force, impuissante. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 6, car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, pour nous les pécheurs. Frères et sœurs, sommes-nous conscients de notre responsabilité en tant que pécheurs sauvés? Est-ce que sommes-nous conscients de cela? Sauvés par grâce? Parce que quand Jésus-Christ nous pardonne et nous sauve, il s'attend à ce que nous quittions nos anciennes habitudes de notre vie de péché
C'est ce qu'il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Et nous, le Seigneur nous a sauvés, nous a pardonnés. Et il s'attend à ce que nous puissions quitter nos anciennes habitudes, notre ancienne vie de péché. Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il appelle à une vie nouvelle. Et cela est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Car la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité de pécheurs pardonnés, sauvés par grâce? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole toute puissante. Merci aussi car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui ont placé leur confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.